Sud Radio, le livre du dimanche.
Le livre du dimanche sur Sud Radio, dans le silence de l'État, comment l'impuissance publique livre la société à elle-même, c'est publié aux éditions de l'Observatoire. C'est signé de notre invité Gilles Claverolles. Bonjour à vous. Et bienvenue à vous sur Sud Radio, Gilles Claverolles. Vous êtes préfet délégué, ancien délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. C'était entre 2015 et 2017. Vous êtes aussi un des cofondateurs du Printemps républicain et créateur du think tank L'Aurore. Quand la France va mal, c'est que l'État n'est pas en forme. C'est en quelque sorte votre message. De quoi souffre l'État aujourd'hui ?
Alors, d'un affaiblissement que chacun peut constater dans la vie quotidienne. On parle à chaque fois qu'il y a une crise ou un sujet d'actualité qu'il met en valeur, les hôpitaux vont pas très bien, l'université va pas très bien, la justice va pas très bien. Mon idée était d'essayer de reprendre tout ça dans une perspective historique longue et de comprendre pourquoi l'État s'était affaibli.
Voilà.
Qui a fait qu'on s'est engagé dans ce mouvement lent, un peu sans s'en rendre compte. C'est un peu comme l'histoire de la grenouille. On monte la température d'un degré à chaque fois, on se rend pas compte qu'on est en train de, non pas de bouillir, mais plutôt au contraire de refroidir et de se laisser prendre dans les glaces. Alors ce qui s'est passé, entre autres choses, c'est que depuis une cinquantaine d'années, et pas seulement en France d'ailleurs, dans l'ensemble du monde occidental, la puissance publique est remise en cause. On est sorti d'une période qui était celle de l'État-providence, c'était vrai en France, mais c'était vrai en fait dans toutes les démocraties occidentales, où période au cours de laquelle la puissance publique avait un rôle majeur d'entraînement de la société, de redistribution, de correction des inégalités.
C'était l'époque de la Sécu, c'était l'État-providence des Trente Glorieuses.
Exactement. Et il y a eu une remise en cause, disons au nom de l'efficacité, pour aller vite, un système qui devenait plus coûteux, plus inefficace, et donc qui a été progressivement remise en cause. L'efficacité de la dépense budgétaire a été également critiquée. Tout ça nous est venu des États-Unis et du Royaume-Uni à la fin des années 70.
Avec Ronald Reagan et Margaret Thatcher. Sauf que c'était des libéraux dans leur cas. Ils étaient plutôt conservateurs ou libéraux. Et vous, vous pointez la responsabilité d'une partie de la gauche en France.
Alors, de la gauche, pas particulièrement, ou pas uniquement en tout cas, mais en tout cas certainement des élites politico- et administratives. Et c'est le paradoxe, parce que ce sont elles qui, sur la très longue période, depuis la fin du Moyen-Âge, ont construit l'État-nation à la française, avec toutes ses caractéristiques, parfois un peu envahissantes, faut bien dire ce qui est, mais en tout cas très présentes dans la vie collective, et jouant un rôle à la fois de distributeur de politique publique, mais aussi, et surtout, un rôle d'unificateur de la nation, d'instituteur de la société, comme je l'appelle. Et alors donc, en France, où le libéralisme pur et dur à l'anglo-saxonne n'a jamais eu énormément bonne presse. La critique de l'État ne pouvait pas être aussi radicale qu'elle l'était dans ce qu'on appelait les Reaganomics. Donc c'est une autre forme de critique de l'État qui s'est installée, au nom de l'efficacité justement, avec ce leitmotiv qu'on a entendu à partir de la fin des années 90. Mieux d'État, c'est moins d'État.
Voilà. Et donc le service public recule. Quand on entend par exemple Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, pour ne citer que lui, mais aussi beaucoup d'élus locaux qui ne sont même pas de gauche, qui disent le service public est en train de disparaître, ça vous le confirmez ce constat ?
Ah oui, oui, c'est pas c'est pas de l'exagération ou du populisme, enfin ça arrive parfois, mais non, ça correspond à une réalité. En fait, la dépense publique, puisqu'elle est très élevée, le plus élevé des pays développés, c'est trois blocs, trois composantes : l'État, la protection sociale et les collectivités locales. Voilà. Alors c'est les deux blocs, protection sociale et collectivités locales, qui ont considérablement augmenté au cours des 40 dernières années.
C'est vrai.
Tandis que l'État, à moyen constant, en fait, ses ressources ont plutôt diminué. Et bien, ça se voit. Ça se voit dans le fonctionnement d'un certain nombre de services publics.
Ça se voit à l'éducation nationale, par
ça
exemple.
Ça se voit, par exemple, à l'éducation nationale, où les profs ont perdu en pouvoir d'achat de manière incontestable.
On se souvient d'un ministre de gauche, Claude Allègre, qui disait, je cite, qu'il fallait dégraisser le mammouth. C'était sous Lionel Jospin en 1997. Il y est arrivé ?
Je ne suis pas certain. Non, mais en fait, il n'a même pas vraiment essayé. C'est pire que tout quand on lance des formules comme ça, l'emporte-pièce qui braque les gens inutilement et que derrière,
les enseignants s'en souviennent encore.
D'autant que, voilà, c'est ça, à partir du début des années 90, c'était sous Lionel Jospin, ministre de l'Éducation, il y a eu une espèce de compromis social avec les syndicats. On augmente les postes de profs, mais on n'augmente pas les salaires. Et on n'est jamais sorti, en fait, de ce compromis social, qui fait qu'aujourd'hui, les enseignants sont paupérisés, et la qualité globale, la performance globale du système éducatif, on le voit dans les classements internationaux, et a beaucoup chuté.
On a beaucoup, donc on n'est pas dans le mieux d'État, en tout cas, avec...
Non.
l'éducation nationale. Vous parliez des années 90, de Lionel Jospin, ministre de l'éducation nationale. Il s'est passé autre chose sous ses fonctions. C'est notamment l'arrivée du voile à l'école, le débat sur la laïcité qui est un de vos chevaux de bataille. On va y revenir dans quelques instants. J'aimerais qu'on vienne sur un autre événement sur lequel vous revenez. C'est celui de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. En quoi ça a été un tournant pour vous? Qu'est-ce qui fait que pour l'image de l'État, l'influence de l'État sur la société, le fait de renoncer à cet aéroport a été un tournant?
Ah, pour moi, c'est le cas pratique qui devrait être enseigné dans toutes les écoles de la fonction publique, la nouvelle INSP qui succède à l'ENA. La future ENA, parce que ça illustre tous les dysfonctionnements d'un État qui ne sait plus où il va. Pendant 50 ans, l'État, les pouvoirs publics, d'ailleurs de conserve avec les élus locaux, qui étaient très favorables, ont porté ce projet.
Un aéroport, un nouveau grand aéroport pour Nantes.
Dans une région en plein développement, pour faciliter son développement et aussi pour désenserrer le petit aéroport historique qui datait en fait des années 30 de Nantes et l'installer sur un terrain plus vaste et plus adapté. Donc il y a eu toutes les phases, les études techniques, les validations juridiques, les consultations publiques et au bout de tout ça, finalement, on a renoncé. Et on a renoncé pourquoi ? Eh bien, sous la pression en fait de zadistes qui étaient, selon les saisons, entre 80 et 400, un peu plus en été, mais guère plus en réalité. C'est-à-dire que la pression d'une minorité violente aura suffi à ce que l'État renonce après que ses dirigeants ont dit « si on lâche sur Notre-Dame-des-Landes, alors il ne faut pas s'étonner ». C'est ça, je trouve, qui est très emblématique. Emmanuel Macron, candidat trois semaines avant d'être élu, dit « je ne lâcherai pas sur Notre-Dame-des-Landes parce que si je lâche sur Notre-Dame-des-Landes, on ne pourra jamais plus rien faire ».
On ne pourra plus rien faire. Et qu'est-ce qu'il a fait ?
Une fois au pouvoir, il lâche Notre-Dame-des-Landes.
Pourquoi ? Il a eu peur de quoi ?
Alors, je pense qu'au moment où la décision a été prise, en réalité, c'était déjà trop tard, et même c'était bien trop tard plusieurs années auparavant. Je m'explique, on a eu, dans la phase, disons, du début des années 2010, un moment de consensus où c'était possible. Il y avait un momentum, on pouvait le saisir, on ne l'a pas fait pour diverses raisons, on a lancé cette procédure de consultation référendaire qui a validé une fois de plus...
Les habitants étaient d'accord ?
Que les habitants de Loire-Atlantique, alors il y a eu des contestations sur le périmètre évidemment, mais étaient d'accord. Le problème, c'est qu'entre-temps, il y a eu les attentats, les bonnets rouges, divers mouvements sociaux qui faisaient qu'il était...
Et ça a durci l'opposition.
Et ça a durci l'opposition, et surtout, ça rendait très difficile le fait d'intervenir et d'envoyer suffisamment de forces de l'ordre dans de bonnes conditions, d'autant qu'entre-temps, il y a eu également Sivens. Donc on a eu une série d'événements qui ont rendu... au plan pratique opérationnel, très difficile, très aléatoire.
L'évacuation,
et on peut comprendre que les pouvoirs publics y aient renoncé pour cette raison-là.
Je vous pose aussi cette question parce qu'il reste un certain nombre de grands projets qui sont envisagés en ce moment, même certains d'entre eux datent depuis longtemps. Je cite le canal Seine-Nord-Europe, je cite le TGV Lyon-Turin, je cite le TGV Bordeaux-Toulouse. Ils sont tous contestés par certains élus ou par des habitants. Est-ce que ça veut dire qu'on n'arrivera plus à les faire, ces projets ?
La question peut se poser, oui. Quand on pense à ce qu'il a fallu de procédures, parfois assez brutales d'ailleurs, pour réaliser quelques grands projets d'infrastructure en France, regardez le visage de Paris. Oui. Tel qu'il nous a été légué aujourd'hui par les bâtisseurs qu'étaient Rambuteau et Haussmann.
C'était une concertation à la chinoise à l'époque.
Pas de concertation du tout, exactement. Et vous citez la Chine, vous faites bien, parce qu'on voit bien que l'impuissance publique attise les demandes autoritaires. Mmh. C'est-à-dire que vous avez tout un tas de gens sur tous les sujets, c'est pas seulement l'immigration, qui vous disent « vous voyez bien que c'est la chienlit, on peut plus rien faire, donc il faut un gouvernement autoritaire si on veut arriver à faire des choses ». Et ce que j'explique, c'est que si on veut désamorcer cette tentation autoritaire, qu'on voit se manifester un peu partout dans les démocraties, des propositions populistes, illibérales, etc., alors il faut retrouver un sens de l'autorité de l'action publique, mais qui passe également par la reconnaissance du fait que l'État est là pour protéger nos libertés et notre intérêt, et pas pour nous embêter toute la journée.
On parle d'autorité, justement. Vous entendiez, il y a une dizaine de minutes sur Sud Radio, ce maire d'une ville d'un millier d'habitants qui expliquait la montée de la délinquance chez lui et qui avait été lui-même agressé. Ça veut dire que ce non-respect de l'autorité, même symbolique, ça vient de l'image de l'État qui serait faible aujourd'hui ?
Oui, d'un affaiblissement plus général de la notion d'autorité qui n'affecte pas que l'État. Pour que des violences puissent être commises comme ça dans une commune rurale totalement protégée de la délinquance, totalement protégée.
En théorie.
Plus tellement maintenant, puisqu'on sait très bien que les mouvements, les circulations de population font que la délinquance s'exporte un peu partout, y compris dans les territoires périphériques, voire ruraux, pas tellement dans le rural profond. Mais c'est surtout la désinhibition en fait des gens qui est significative. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un individu ? On ne sait pas quel est son passé judiciaire. Il en a peut-être pas pour aller violenter un maire. C'était inenvisageable et inimaginable il y a encore quelques décennies.
La peur du gendarme à une époque et aujourd'hui on n'a même plus peur du premier magistrat de la ville. Merci beaucoup.
Merci.
Gilles Claverolles, auteur de ce livre Dans le silence de l'État, comment l'impuissance publique livre la société à elle-même, s'est publié aux éditions de l'Observatoire. Vous écoutez Le Grand Matin Week-end sur Sud Radio, il est 9h52.